Say, what the hell is your name anyway?
Crook.
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 Crook. Ram.
Bonjour à toutes, bonsoir à toutes et à tous, travailleurs, travailleuses, en cette fête du travail, on se retrouve, nous, l'équipe d'Inside the Hoop, le podcast d'Inside Basket, pour vous proposer de nouveau un nouvel épisode. Vous l'aurez très vite remarqué, Simon ne sera pas à la présentation aujourd'hui, je ferai l'intérim pour lui laisser un peu de repos. En bon fonctionnaire, durant la fête du travail, Simon ne sort pas de son lit, et bon, on peut le comprendre, mais en attendant, il faut bien faire tourner le podcast. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un épisode de review un peu hebdomadaire de ces playoffs. C'est globalement toute l'actualité qui est en ce moment et ce qui monopolise l'attention des suiveurs de la NBA, et c'est bien normal. Et donc on se retrouve aujourd'hui avec un épisode qui sera divisé donc en deux parties, avec une première partie un peu d'actualité très vite avec les derniers trophées qui ont été annoncés au cours de la semaine. On reviendra ensuite un peu plus longuement sur les trois séries de playoffs qui sont terminées, donc les trois séries qui sont à l'ouest d'ailleurs. Et puis dans une deuxième partie, on reviendra aussi sur les cinq séries qui sont en cours, mais de manière un peu plus succincte, avec deux, trois questions pour chaque série. Vous verrez, l'idée est de ne pas se répéter par rapport à la semaine dernière. Donc, je vous le disais, Simon n'est pas là, mais ce n'est pas pour ça qu'on n'a pas pu réunir une équipe de choc pour ce podcast. Avec un de nos fidèles acolytes, évidemment, il est là, il est toujours là, même en cette fête du travail. C'est Flo. Comment tu vas, Flo, aujourd'hui?
Salut les amis. Bah, écoute, ça va très bien.
Très bien, il fait beau, il fait chaud, on ne fait pas grand-chose, c'est forcément
une belle journée. Exactement, c'est une contre-pétition belge, il fait beau et chaud.
Parfait. Et puis pour nous accompagner, pardon ?
Ça fait il fait beau et chaud dans tous les cas. C'est pour ça que c'est une contre-pétition belge.
C'est bien, je vois que tu es en forme, ça me fait plaisir Flo, j'adore. Et donc pour nous accompagner, je disais, puisque nous allons parler d'une série de play-offs à l'Est très particulière et qui nous tient à cœur, à moi comme à lui, il fallait évidemment inviter Sylvain qui est de retour pour parler play-off. Comment tu vas, Sylvain?
Ça va très bien, on se promet mai. Salut Paul, salut Flo, et ravi de parler de NBA. Je n'ai pas de contre-pétri sous le coude, désolé. Mais voilà, on va parler play-off.
On laisse ça à Flo, chacun son talent, chacun ses qualités. Première fois que tu parles des play-offs avec nous, tu n'étais pas venu encore,
ouais,
toi?
Pas encore, non, tout à
parfait.
Fait.
Bah, on va pouvoir avoir ton avis sur pas mal de séries, puisque le mien, on l'a déjà entendu, il n'est pas terrible. Celui de Flo est toujours exceptionnel, donc de toute façon, il n'y a pas de souci. Et comme Simon n'est pas là, ça nous intéresse un peu moins. Donc on se retrouve après cette petite pause, comme je vous disais, pour une première partie, où on va parler un petit peu d'actualité, puis revenir en détail sur les trois séries de play-offs déjà terminées. C'est parti pour cette première partie. Petit hommage à Simon pour ceux qui l'auront. Comme je vous disais en intro, donc on va commencer avec les actualités qui sont tombées depuis la semaine dernière. Globalement, l'actualité, ça reste les playoffs. Hein, donc il y a quand même deux, trois choses, notamment les derniers trophées de l'année. Vous savez, désormais, les trophées sont décernés un peu au compte-gouttes dans une période où on ne sait pas trop comment ça se passe, ils arrivent un peu comme un cheveu sur la soupe. Et donc, on a eu au cours de cette semaine les résultats de trois trophées. Le plus important, peut-être, c'est celui du coach de l'année, où pour le coup, il n'y a pas vraiment eu de surprise dans les résultats. C'est donc Mark Degno, le coach d'Oklahoma City, qui remporte cette première place, avec 89 premières places d'ailleurs sur 99. Il est donc premier avec 80-73 points. Le deuxième, c'est Jamal Mosley, le coach d'Orlando, avec 158 points. Et le dernier est donc Chris Finch, le coach de Minnesota, avec 105 points. Un résultat plutôt cohérent quand on voit la saison du Thunder. Il y a un vrai développement depuis maintenant 2 ans et on sent que cette équipe est vraiment sur une montée en puissance avec, on l'a souvent dit aussi dans le podcast, un style de jeu bien particulier et c'est une chose que je trouve qui est importante à mettre en avant. J'imagine que vous êtes plutôt d'accord avec ce vote-là, Sylvain ?
Ouais, complètement. Moi, je l'avais aussi en première place. Ça semble un peu indiscutable, tant la saison du Thunder est surprenante. Souvent, on a tendance à récompenser les coachs, soit qu'ils font une saison surprise au-delà des espérances, soit parce que le coach a des bons résultats. Bah là, en l'occurrence, Desnoyers, il a les deux, puisqu'ils sont premiers de l'Ouest, avec le groupe le plus jeune. Hein, je crois que c'est les premiers à remporter la conférence avec un groupe aussi jeune. Donc, chapeau à lui. Et puis, il faut quand même aussi reconnaître qu'il a tout de suite intégré Holmgren en le responsabilisant dans le 5, en lui donnant des grosses minutes. Donc, ça a été payant. Et pour le moment, honnêtement, c'est un sans faute. Sur les deux dernières saisons, Desnoyers, c'est un sans faute. Je crois qu'il était deuxième l'an dernier, il n'était pas loin. Là, c'est complètement logique de lui donner. Vu la saison de Casey, c'est vraiment indiscutable pour moi.
Flo, sur ce classement-là, tu es plutôt d'accord ? Ça fait aussi partie des votes que tu aurais donné, toi ?
Oui, il était dans la très short list. Félicitations à lui, c'est tout à fait mérité.
Okay. Donc un vote plutôt cohérent. En ce qui concerne le reste des votes, Eric Spoelstra a eu un vote à la première place. Un jour peut-être il l'aura. Il y a donc un journaliste vraiment cohérent dans cette ligue.
Saison, non.
Non, oui, c'est plus pour la blague qu'autre chose que Spo ne l'ait pas eu, effectivement. Thibodeau aussi a eu des votes. Matsoula a eu des votes. Udoka a eu des votes, pas la première place, mais en deuxième et troisième place. Carlisle a eu des votes. Et un peu plus étonnamment, Jimmy Bickerstaff a eu un vote à la troisième place. Jason Kidd aussi a eu un vote à la troisième place. Comme quoi, on peut voter pour les titres et ne pas regarder une tonne de matchs. Et puis, pour finir, voilà, moi je voulais aussi mettre un peu en avant aussi le boulot qu'a fait Chris Finch. Vous connaissez mon amour des Minnesota Timberwolves, on en parlera un peu plus tard dans la série, dans l'épisode. Il sort aussi, donc il finit lui à la troisième place, mais je dois reconnaître le boulot qui est fait, et franchement c'est mérité pour la saison. Et puis petite news aussi en passant pour finir avec lui, donc j'imagine que beaucoup l'ont vu. Chris Finch qui s'est donc blessé lors du dernier match contre Phoenix après un choc avec Mike Conley, et qui donc a subi une rupture du tendon rotulien, ce qui est quand même plutôt important comme blessure, et qui ne sera pas sûr d'être là pour le Game 1. Donc bon, il n'aura pas eu le trophée, il ne sera peut-être pas là pour le début de la deuxième série, mais il aura fini sur une belle saison. On enchaîne très vite avec donc le deuxième trophée un peu important qui est tombé durant cette semaine. C'est celui de l'exécutif de l'année. L'exécutif de l'année, c'est donc le front office. Et pareil, sans vraiment de surprise, c'est Brad Stevens qui a remporté ce trophée. En deuxième place, on a donc Sam Presti qui obtient 47 points. Brad Stevens est donc premier avec 107 points. Sam Presti, deuxième, 47 points. Tim Connolly de Minnesota est lui troisième avec 29 points. Encore une fois, la construction de l'effectif de Boston est plutôt très, très intéressant. Il a su faire des bons mouvements cet été. D'ailleurs, les Celtics ont roulé sur la saison avec un collectif vraiment intéressant et notamment un 5 majeur ultra dominateur. Encore une fois, j'imagine qu'il n'y a pas trop de surprises, que vous êtes plutôt d'accord avec ce classement-là. Tiens, Flo.
Oui, il a quand même fait l'arrivée de Porzingis et d'Holiday ont quand même été, il suffit de vous regarder les résultats de l'équipe, ont été quand même des gros coups. Donc oui, c'est mérité pour lui, félicitations.
D'ailleurs, on en parlait un peu en off, le troisième a donc été Tim Connolly des Minnesota Timberwolves. C'est ce qu'on disait un peu avant, Sylvain, Connolly qui lui a participé à l'élaboration, si on peut dire, de ces Denver Nuggets, puis de ces Minnesota Timberwolves. Il y a un talent là, franchement, il y a du gros boulot qui a été fait de sa part, non ?
Bah, complètement, parce que il y a deux choses, c'est la draft, déjà ils draftent très bien, et puis c'est quelqu'un qui n'hésite pas aussi à prendre des risques. À l'époque de Denver, il fallait faire un choix entre Jokic et Nurkic. On peut quand même supposer qu'il a fait le bon choix. Et il a drafté aussi des gars vachement tard, mais qui se sont révélés être des role-players aussi efficaces. Hein. Je pense à Malik Beasley notamment. Il avait fait venir Will Barton à l'époque. Donc, il avait fait du très bon job à Denver. Et là, force est de constater qu'avec les Timberwolves, ça en prend la tournure, puisque l'équipe est désormais en demi-finale, avec un bilan qui n'a pas été fait depuis, je crois, ils ont dépassé les 50 victoires, ça n'avait pas été fait depuis 20 ans. Donc, il remet quand même sur les rails cette équipe des Timberwolves qui se morfondait dans le ventre mou ou dans les bas-fonds déjà depuis une bonne quinzaine d'années. Donc, super job. Le voir troisième, ce n'est pas non plus honteux. Voilà, il est sur le podium. Mais par rapport au boulot de Brad Stevens, c'était dur de le mettre au-dessus, honnêtement.
Ah, je suis un peu d'accord. Et donc, on aura pour cette série du second tour entre Minnesota et Denver le fameux Conelico, une nouvelle invention NBA. Il y a, pour finir sur les votes, il y a eu quelques votes qui ont été donnés donc à Leon Rose de New York, quelques-uns à Nico Harrison de Dallas. Il y a eu quelques votes, première place aussi pour Raphaël Stone, le GM de Houston. Et puis sinon, un peu de Calvin Booth à Denver, un peu de Joe Cronin à Portland. Ça fera plaisir à Flo, j'imagine. Et puis un peu de Kevin Pritchard aussi à Indiana qui a fait du boulot intéressant. Pour finir donc sur ces petites actus et sur ces trophées, on a eu en tout doux début de semaine les résultats d'un trophée récent arrivé en NBA, je crois, qui date de l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises, le trophée du joueur le plus clutch, qui cette année est donc attribué à Stephen Curry, qui est premier de pas très loin d'ailleurs, juste devant DeMar DeRozan. Stephen Curry est donc premier avec 298 points. DeMar DeRozan est deuxième avec 272. Et puis qui les accompagne sur le podium, nous avons donc Shai Gilgeous-Alexander qui lui finit un peu plus loin avec 160 points. Pas grand chose à dire pour ma part sur ce trophée. Les contours du trophée sont d'ailleurs un peu flous. On ne sait pas vraiment ce qui rentre en compte. Donc, bon, c'est plutôt, c'est pas volé quand on connaît la carrière de Curry et surtout quand on voit cette saison où il a mis quelques gros shoots pour, il y a plusieurs buzzer beaters de Curry, si je dis pas de bêtises, cette année, ou pas loin du buzzer beater en tout cas. Voilà, enfin, c'est un trophée qui, j'imagine, fait particulièrement plaisir à Flo, qui va s'empresser de nous donner son avis sur ça.
Bon, écoute, félicitations à Curry qui a été touché 10 d'autres. On l'aura déjà oublié demain, donc.
C'est pas faux, c'est pas faux.
Je suis pas sûr que ce soit le trophée qu'il mette le plus en avant dans son armoire, honnêtement.
Ouais,
le problème, tu l'as dit, c'est en fait, quels sont les critères de ce trophée? Moi, j'ai un problème avec ça, quoi, parce que. Si tu regardes qui a marqué le plus de points dans le Money Time, dans le clutch cette année, effectivement, c'est Curry. Donc, si c'est cette stat, ok, il est en tête. Après, d'un point de vue visuel, il y a d'autres mecs qui ont mis des game winners. Est-ce que tu prends juste le mec qui a mis 3 ou 4 game winners dans l'année? Tu vois, les critères ne sont pas très clairs. Donc, ok, on lui donne, très bien. Mais ça aurait pu revenir aussi à DeRozan qui en a planté je ne sais pas combien dans le Money Time. Enfin, voilà, c'est un peu flou quand même, je trouve.
Oui, c'est un peu le souci de ce trophée-là. Ouais. Voilà, il y a eu cette volonté de rajouter des trophées l'année dernière. Pour l'instant, celui-là ne prend pas trop. Bon, ça fait partie de l'actualité, on en parle un petit peu. On enchaîne donc avec la continuité de cette première partie. Et comme je vous le disais en intro, on va revenir sur les 3 séries de play-offs qui sont désormais terminées. 3 séries de play-offs à l'ouest, d'ailleurs. Les 3 premiers tiens, qui ont expédié, si on peut dire, leurs 3 premières séries. On va commencer avec la série Minnesota-Phoenix, qui est peut-être celle qui a le plus marqué ce premier tour. Minnesota qui s'impose donc 4-0, un résultat qui reste malgré tout une surprise au regard de cette série, si on ne prend pas vraiment en compte les deux saisons qui sont totalement différentes, avec une équipe de Phoenix qui n'a jamais vraiment décollé, au contraire de cette équipe de Minnesota qui a vraiment montré une continuité tout au long de la saison, qui a longtemps bataillé pour être premier à l'Ouest. On imaginait que l'expérience de Phoenix et notamment de ces 3 superstars leur permettrait d'atteindre un niveau qui serait quand même un peu supérieur à ce qu'ils ont montré sur la série. Mais voilà, c'est une équipe de Phoenix qui a été totalement étouffée par Minnesota. derrière un homme qui vraiment a crevé l'écran, c'est Anthony Edwards. Il a été de très très loin le meilleur arrière de cette série, ce qui n'était pas forcément une évidence en tout début. Il a été de très très loin le meilleur joueur de cette série, ce qui n'était pas forcément une évidence de cette série au début, pardon. Il finit donc la série avec des moyennes dans la lignée des grandes années de LeBron. Il finit en 31-8-6 de moyenne, avec donc une domination sportive, mais aussi une domination dans le leadership. Et c'est là où on l'attendait, mine de rien, sur ce premier tour de play-off également. C'est dans cette capacité à prendre les clés de l'équipe. Et bon, là, il n'y a pas photo, il est vraiment le patron de cette équipe. Derrière, donc, un collectif exceptionnel qui a vraiment fait le boulot. Rudy a fait une énorme série, McDaniels aussi, accompagné par Alexander Walkers, qui ont fait un boulot phénoménal en défense. Le retour de Karl-Anthony Towns aussi a fait beaucoup de bien à cette équipe de Minnesota, qui est clairement montée en puissance sur la série et qui n'a jamais vraiment laissé une opportunité à ses Suns d'exister. Un résultat qui a l'air un peu sévère sur le papier, mais qui globalement est plutôt cohérent quand on voit la dynamique et puis qui, sur la vérité des matchs, pardon, s'explique assez facilement. La première question que je voudrais vous poser, elle est plutôt simple et générique d'ailleurs, qu'est-ce que vous retenez en premier de cette série et de cette élimination de Phoenix? Tiens, Sylvain, pour commencer.
Tu veux dire sur Phoenix ou sur la série en général?
Globalement, s'il y a quelque chose qui t'a marqué dans la série, qu'est-ce que tu en retiens?
Anthony Edwards. Honnêtement, visuellement, j'ai pas eu d'impression visuelle comme ça depuis très très longtemps, parce que tu parlais de domination dans le leadership, mais même physique, dans le match 4, il va bloquer Booker, lui met un contre énorme. Enfin, je trouve que physiquement, il était au-dessus des deux autres arrières. Pourtant, comme tu dis, il y avait Bill et Booker en face, c'est pas n'importe qui, mais il les a complètement mangés. Booker score un peu dans le vide, finalement, sur le Game 4, ça sauve un peu les meubles, on va dire. Mais il les a portés sur son dos, les Timberwolves. C'est incroyable. Sur le match 4, en deuxième, il n'est pas très fort en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, il commence à rentrer quelques shoots et là, il rentre dans la zone. Il y a même une fois, j'ai le souvenir de Gobert qui coupe. Il est tout seul, donc il pourrait faire la passe, Edwards, mais il s'élève, il shoot, il est dans une telle confiance et niveau de réussite que tu as l'impression qu'il ne peut pas rater. Et visuellement, honnêtement, très très grosse impression. J'ai bien aimé la série de 4 qui avait commencé doucement et puis qui est montée petit à petit en puissance. Et il faut derrière Edwards, de toute façon, un deuxième, je dirais, go-to guy offensif quand même. Si Minnesota veut aller un peu plus loin, donc Towns, voilà, moi je l'ai trouvé énorme. Et le troisième que j'aimerais mettre en avant, c'est Nickeil Alexander-Walker. On n'en parle pas beaucoup. C'est un mec qui était même quasiment sorti de la NBA, qui s'était perdu un peu du côté d'Utah, des Pelicans, et qui a vraiment trouvé son rôle cette année. Et là, j'ai trouvé que offensivement, il a mis des trois points, hein, très importants. Et puis en défense, mais il a rendu la vie impossible aussi à Bill et Booker. En défense, c'est un chien. Il est leader du nombre de déflexion sur les playoffs, donc ça veut dire quelque chose. C'est un mec qui est tout le temps sur les lignes de passe et qui te prend à la gorge sans arrêt. Donc voilà, là, on sait que les Timberwolves, leur principale arme, c'est la défense, et voilà, j'avais envie de parler de ce gars. Maintenant, pour les Suns, quelque part, c'est logique. Le 4-0 est peut-être un peu brutal, mais comme tu l'as dit, il y avait deux dynamiques. On sentait que les Timberwolves, même quand Kat a été absent, sont restés dans une dynamique positive et sont restés agrippés à ce podium, alors qu'on pouvait craindre une petite chute. Les Suns, c'était trop fluctuant. Ils ont fini correctement la régulière, mais c'était trop fluctuant. Et quand tu n'as pas vraiment de certitude sur ton collectif, arriver en play-off face à une équipe très organisée, bah forcément, il y en a une qui passe. Voilà. Ça, pour moi, c'est complètement logique. Le 4-1 est peut-être un peu sévère, mais voilà, le meilleur a gagné largement. Ouais. C'est la leçon à retenir.
Je suis assez d'accord avec ça. Globalement, on a l'impression que Minnesota a imposé son style de jeu. Très vite, Flo, aussi, sur ce côté-là, si tu as une chose à retenir sur cette série, et puis après, si tu veux, tu peux enchaîner aussi sur quel bilan on donne de cette équipe de Phoenix sur cette année.
Sur la série, que Minnesota est quand même un sacré bulldozer, offensif et défensif, alors surtout défensif, que c'est quand même une équipe qui, voilà, qui maîtrise parfaitement son sujet et qui a beaucoup de talent. Mais j'ai beaucoup aimé aussi, voilà, le travail de McDaniels, par exemple, qui a pas mal éteint, notamment Booker. Mais ouais, c'est quand même... Et oui, alors l'éclosion d'Anthony Edwards, bien sûr, aussi. Hein. Mais en tout cas, pour moi, ce que j'entends, c'est que Minnesota est quand même une équipe très sérieuse au titre. Si on pouvait en douter un minimum, là, quand même, on est obligé de se poser sérieusement des questions. Il faudra les sortir, ça va pas être évident. Et tu veux
Ouais.
que j'enchaîne sur les Suns?
Ouais, d'ailleurs, bah, du coup, ouais, tu peux enchaîner un peu. Quel bilan finalement tu fais de cette saison de Phoenix? Et puis, alors, de la série, même si on en a un peu parlé, mais plus globalement de cette expérience qui a été tentée à l'été dernier et qui n'est pas une franche réussite, c'est le cas de le dire.
Non, non, bah, ils ont fini sixième, hein, donc c'était déjà une saison compliquée pour une équipe où beaucoup de gens avaient des grandes espérances, des grands objectifs. Déjà, la saison régulière laissait penser que le projet était pas si efficace que ça. Ça a été compliqué tout du long de la saison. Je trouve que, en plus, dans la seconde partie de saison, après l'All-Star Game, j'ai trouvé même Booker un peu moins efficace. Et puis dans cette série de playoffs,
Ils n'ont jamais vraiment existé, en fait. On a
non,
l'impression
non,
que...
je sais. Oh, franchement, les trois stars ont quand même un peu déçu.
Oui.
Le reste du casting, bah, de toute façon, on sait que le reste du casting, c'est quand même. Enfin, c'est pas eux de toute façon de faire gagner leur équipe et on sait que c'est beaucoup plus pauvre. Hormis Nurkic, qui est quatrième larron, après l'effectif c'est quand même assez faiblard. C'est un échec, c'est un fiasco, ça c'est sûr. La mayonnaise n'a jamais vraiment pris, alors c'est sûr qu'il y a eu des blessures, patati patata, c'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Mais globalement, on sent quand même que c'est un projet qui a sans doute une durée de vie très courte. Je pense que dès cet été, ça va bouger. D'abord, parce que s'ils ne le font pas, ils vont se taper les conséquences de la luxury tax. Ils vont se taper des pénalités, entre guillemets, qui vont rendre leur avenir encore plus compliqué. Il va falloir faire des décisions. Qui part? Parce que qui reste, il n'y a pas grand monde, mais qui part? Comment? Bill a une no trade clause. Donc déjà, il partira que s'il veut partir. Que faire de Durant? Ça va être compliqué. Moi, honnêtement, hormis Nurkic, qui encore peut servir dans un trade, hormis Nurkic et Booker, il n'y a pas grand-chose d'autre hein, dans cette équipe. Donc,
C'est compliqué. Puis Booker, j'ai du mal à voir Phoenix lâcher Booker. Je pense que c'est
je
leur
pense qu'ils vont le
seul.
garder parce que
Ouais.
il te faut une tête de gondole. Et puis, il est quand même extrêmement apprécié des fans aussi. Bon, et puis de toute façon, il te faut bien une star, donc ils l'ont
Bah,
déjà. Qui garde Booker, Détroit, c'est quand même la plus fiable et surtout la plus jeune, donc ils la gardent. Après le reste, honnêtement, tout peut sauter. Ils n'ont pas non plus tour de draft, donc c'est
non,
très compliqué.
ils ont pas de tour avant 2030, si je dis pas de bêtises. Ils ont vraiment.
Avec Durant, ils peuvent peut-être récupérer un ou deux role players et des tours de draft. Il faut essayer de repartir comme ça, mais c'est très compliqué. C'est un all-in. Ouais, c'est un
Ils peuvent
all-in.
repartir avec le même collectif aussi. Hein. Globalement, si tu fais deux, trois petits ajustements, tu traînes Nurkic, tu essaies de récupérer un ou deux joueurs en échange, tu peux éventuellement repartir avec les trois mêmes. Hein.
Ouais, compliqué quand même, parce que déjà, est-ce que Durant va vouloir, est-ce que Durant et Bill vont vouloir rester? Bill peut-être plus. Ensuite. Moi, je pense que le problème, c'est que ce trio-là, pour moi, me paraît pas un trio gagnant. Donc après, tu peux faire tous les ajustements que tu veux autour. Je vois pas trop comment ils vont faire. Puis ils ont pas une grande marge de manœuvre parce que les trois bouffent tout le salary cap. Ils ont pas de draft. Et les role players, Nurkic, t'obtiendras pas grand-chose non plus. Donc pour moi, ils sont obligés de supprimer à minimum une star. J'ai envie de dire qu'il faut en échanger deux. Mais donc l'avenir très compliqué.
L'avenir très compliqué. Au
Ils ont
contraire,
joué, ils
donc
ont perdu.
comment?
Ils ont joué, ils ont perdu. Donc ça
C'est
peut leur
ça.
coûter
Bah,
cher.
c'est un peu le. C'est Matisse Bia a fait des paris. De temps en temps, les paris, c'est perdant. C'est le principe des paris. Ne vous endettez pas sur ce genre de bêtises. Pour revenir un peu dans le positif et finir donc sur cette série. Flo le disait un peu quand il parlait de ce qu'il retenait de cette série. Cette équipe des Wolves semble être taillée pour le titre. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Sylvain? Est-ce que au regard de cette série, tu te dis que ça devient un candidat très très sérieux et très crédible pour le moment?
Crédible, ouais, crédible parce qu'il y a quand même des joueurs d'expérience qui connaissent très bien les playoffs, que ce soit Conley et Gobert ont quand même une sacrée expérience derrière eux. Et ceux qui se font les dents, alors ok, Kat et Edwards les ont déjà fait, mais n'ont jamais passé finalement un tour. Et eux, voilà, ont les dents longues. Donc je pense que c'est un bon mélange justement de joueurs vétérans qui connaissent. La post-season avec des joueurs ambitieux et pour moi c'est une bonne gueule hein, pour aller jusqu'au bout. Il y a du monde à l'ouest, hein, faudra sortir de l'ouest, mais en
oui,
tout
ça
cas
va être une vraie bagarre,
mais... voilà, là au moins ce premier tour a au moins le mérite de les ancrer définitivement en tant que contender. Pour moi c'est ça. C'était quand même un sacré morceau Phoenix, hein. Je pense que personne ne voulait se taper Phoenix au premier tour. Mais ils l'ont roulé dessus grâce à une défense. Et quand on sait l'importance qu'a en playoff la défense, voilà, forcément, grâce à ça, tu es par nature un contender. La prochaine étape, faudra passer le champion en titre. Donc, voilà, bon courage. Mais je pense qu'ils vont donner du fil à retordre aux Nuggets, hein, forcément.
Et ils avaient montré sur la série de l'année dernière, c'était peut-être l'équipe la plus compliquée,
déjà,
entre guillemets. C'était déjà la série peut-être la plus compliquée qu'a eu Denver l'année dernière. Donc,
ouais, complètement.
C'est effectivement,
Donc, c'est franchement, au moins, ils ont fait une super saison régulière et tout le monde a dit « Ah, bah pas de chance, ils se tapent les Suns. » Finalement, ils ont glissé en 3 et ils se tapent les Suns. Bah, au final, c'est 4-0. Hein, donc, voilà.
Et puis, il n'y a pas eu photo.
Oui. Et par contre, pour Phoenix, tu vois… Moi, quand vous parlez potentiellement d'un membre du Big Three qui partirait, moi, je pense que ça va être très, très dur à refourguer ses salaires. Hein. C'est compliqué. Je pense que la seule marge de manœuvre qu'a finalement Phoenix, c'est de faire sauter le coach, malheureusement, et de repartir avec des nouvelles idées, un nouveau coach, mais avec ce Big Three. Mais je pense que ça va être compliqué à bouger des tels salaires. Ils ont fait ces transferts. Tu penses? Ah, je sais pas.
Il a de la valeur. D'abord, il reste quand même bon.
Oui.
Et puis, Durant, ne serait-ce que pour le nom. Je ne suis pas inquiet pour Durant. Le problème de Bill, c'est plus. Déjà qu'il a une trade clause.
Ah, bah ouais,
donc, c'est... en plus, même si. Bloqué.
Ouais, ouais.
Mais même Bill, hein, y a... les contrats transférables, ça fait... on dit ça tous les 2-3 ans et les mecs finissent toujours par être transférés. Mais ce ne sera pas évident, c'est sûr.
Ouais, c'est pas évident.
Et puis, contre quoi aussi? C'est surtout ça la problématique. Hein. On verra bien pour Phoenix, on aura l'occasion d'en parler un peu plus longuement durant cet été. Puis en ce qui concerne les Wolves, on attend vivement ce prochain tour et cette affiche contre Denver. On va d'ailleurs enchaîner avec l'autre série, une des autres séries qui s'est terminée, et cette série donc Denver Lakers, qui a terminé par une victoire 4-1 des Nuggets. Un peu dans la lignée des Denver Lakers depuis quelques temps, finalement les deux équipes jouent et à la fin c'est Denver qui gagne. Même si au global je crois que les Lakers auront passé plus de temps devant au tableau d'affichage, j'ai l'impression que personne n'y a jamais vraiment cru. On avait le sentiment qu'ils avaient vraiment besoin de trop de choses en même temps pour ne gagner ne serait-ce qu'un match. On avait le sentiment qu'il fallait que AD et LeBron soient en forme, que D'Lo mette des shoots, que Reeves et Rui Hachimura soient constants tout le match, que certains remplaçants aient un apport au moins minime, ce qui faisait quand même beaucoup de choses à mettre bout à bout pour arriver à battre cette équipe de Denver, encore plus sur une série de 4 matchs où on se rend compte qu'il va falloir aller les chercher les Nuggets, même s'ils n'ont pas été non plus rayonnants, notamment Jokic sur le dernier match. Et puis, un peu plus globalement, Murray, qui a eu des pourcentages un peu étranges dans la série, mais qui sort, mine de rien, quand même, comme l'homme un peu de cette série côté Denver, avec deux énormes buzzers pour aller chercher le match 2 et donc le match 5. D'ailleurs, petite stat, c'est le duo Jokic-Murray a joué 10 séries de playoffs ensemble, ils en ont remporté 8. Sur ces 10 séries, et ils n'ont pas perdu ensemble depuis 2020. Preuve qu'on a là un des duos les plus prolifiques et les plus efficaces de l'histoire, au moins en play-off. Un peu comme avant, je vais commencer avec une question vraiment, vraiment globale. Exactement comme avant, qu'est-ce que vous retenez de cette série? Est-ce que finalement les Lakers ont montré un visage intéressant, mais n'étaient pas du tout au niveau pour espérer concurrencer? Ou alors, est-ce qu'on a juste une équipe de Denver qui est tranquillement en train de monter en puissance et qui, même si elle n'a pas un premier tour exceptionnel, a quand même montré pourquoi ils étaient le champion et surtout que ça allait vraiment être très, très compliqué d'aller les chercher sur une série. Tiens, Sylvain, pour commencer, qu'est-ce que tu gardes de cette série en tête?
Pour Denver, la sérénité. Et pour les Lakers, je dirais la combativité. Parce que, comme tu l'as dit, c'est une série qui se termine en 4-1, mais qui, dans les faits, n'a pas été déséquilibrée du tout. Les Lakers, je crois, étaient devant 65% du temps au score. Donc, faut bien se rendre compte que, voilà, ils ont tout donné, je pense. LeBron a été monstrueux, Eddie aussi. Globalement, le 5, même si sur certains matchs, il y a eu des contre-performances, ça a été aussi. Mais la seconde unité est très faible. Donc, Darvinham, ça a été compliqué d'agencer des rotations. Mais globalement, moi, je suis satisfait quand même de la prestation des Lakers. On avait l'impression que, comme tu dis, il faut qu'ils donnent. Il y a beaucoup de facteurs qui soient dans le même sens. Mais ils ont vendu chèrement leur peau. Le seul problème, c'est qu'arrivé en fin de match, on avait l'impression qu'ils étaient peut-être un peu sur la jante. C'est ça le problème. Alors que les Nuggets ont commencé leur run à partir de la mi-temps. Si on regarde le différentiel sur les deuxièmes mi-temps, ça donne moins 24 sur le premier match. Après moins 17, moins 11, moins 2, moins 5. Jamais les Lakers n'ont gagné une deuxième mi-temps. Et dans le Money Time, il y a eu des exécutions de la part des Nuggets qui étaient à montrer dans les écoles de basket. Vraiment. Où le ballon circule, on ne s'affole pas. Même si on est derrière 3 ou 4 points, ce n'est pas grave. On va trouver le bon shooter. Ou Jokic va faire le bon play. Vraiment, c'était un modèle d'exécution, les Nuggets. Par rapport à des Lakers qui étaient, comme je l'ai dit, peut-être un peu plus usés en fin de match et qui s'en remettaient un peu trop aussi au duo AD-LeBron. Et malgré le fait qu'ils soient quand même surdominants, il y a aussi peut-être l'âge chez LeBron. Enfin, ça n'a pas marché. Et c'est vrai qu'il y a eu tellement de matchs entre les deux qui ont été remportés sur le field par les Nuggets que même lorsque les Lakers abordaient le Money Time devant, on pouvait douter de leur victoire et c'est ce qui s'est passé finalement sur la série.
Flo, sur le bilan de cette série, et puis après, si tu veux, tu peux enchaîner un peu sur un peu plus globalement le bilan de cette équipe des Lakers et est-ce qu'ils ont une marge de manœuvre, qu'est-ce qu'on fait cet été, les sujets, pardon.
Sur la série, on l'avait dit, on avait dit ça ferait sans doute 4-1 et ça a fait 4-1. Moi, j'entends beaucoup. Ouais, les Lakers ont montré des bonnes choses. C'était serré. Oui, au score, c'est vrai. Moi, je pense quand même qu'au final, ça fait 4-1. Les Nuggets sont quand même plus gérés qu'il ne le fallait. Surtout qu'ils ont quand même eu Murray, qui a eu des petits pépins physiques. Malgré tout, ils ont su parfaitement gérer la situation. Ils n'ont pas de match. Et donc, de l'énergie qu'ils auront sans doute besoin plus loin dans leur parcours. Ouais, une sorte de bis repetitas. C'est aussi le numéro 2 contre le numéro 7. Voilà, il y a une marge, de talent. Il y a surtout une marge entre les deux. Et voilà, les Nuggets ont fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas embarqués dans une série un peu plus longue, etc. Donc maintenant, objectif, les Wolves, ça va être un plus gros morceau. Et puis sur les Lakers, il va y avoir du travail cette année. LeBron James opt-out. Il est très probable qu'il re-signe aux Lakers. La question, ça va être combien ? Très probablement le plus cher possible. Après, moi, je pense que il faut. L'année où ils gagnent le titre, c'est l'année où ils ont les meilleurs role-players.
Ouais.
Depuis. Il y a eu...
Puis ils ont surtout des intérieurs qui peuvent jouer au pivot et qui ne forcent pas AD à être un pivot toute la saison.
C'est ça. Et depuis qu'ils ont perdu ça, ils galèrent. Donc pour moi, ils ne doivent pas rechercher une troisième star. Ils en ont deux et elles sont très bonnes. En plus, Davis, cette année, a été physiquement quand même beaucoup moins embêté d'habitude. Pour moi, il faut juste qu'ils complètent avec des mecs autour qui soient bons. Quelques snipers, je pense qu'il leur manque quand même pour ça apporterait du spacing en plus.
Peut-être que Gabe Vincent, sans ses blessures, c'est pas tout à fait le même apport aussi. À voir s'il peut faire une saison correcte, lui, pour le coup.
Ouais, c'est vrai qu'il a été un peu décevant, mais ils ont besoin de role player, ils ont besoin de shoot à 3 points, ils ont besoin de ça. Faut pas qu'ils essaient de rechercher à récupérer une troisième star, ils en ont pas besoin.
Ils ont besoin d'un créateur aussi, quand même, parce que dès que LeBron n'est pas sur le terrain, l'attaque est quand même très très statique, non?
C'est vrai aussi. C'était censé être un peu le rôle d'Austin Reeves.
Ouais. Très décevant sur cette série, Austin Reeves.
Ah, il a mis des gros. Enfin, il a quand même mis des gros shoots dans le money time, hein, Austin Reeves là aussi. Hein.
C'est ouais, pas, mais pas sur moi, la c'est série. Pas le plus... Je pense que c'est aussi un peu le problème, c'est qu'on l'a vu aussi avec Dilo, il y a un problème de régularité.
Ouais, je suis d'accord avec ça.
Donc, Dilo a sorti un gros match, puis il a sorti un match catastrophe. Ce qui manque aussi, mais, et c'est ça quand on parle de role player, c'est aussi des mecs dont tu sais chaque soir, ce qu'ils vont faire. Quoi. Et un role player, c'est aussi un mec qui est régulier. Et ils ont besoin de ça, ils ont besoin de soldats autour de stars. Ils en ont deux, tant mieux, et elles sont bonnes. Il faut les entourer. Et les entourer, c'est pas avec des noms, c'est avec de l'efficacité. Donc, je pense que c'est ça qu'ils doivent faire cet été. Et puis voilà.
Sylvain, toi, sur ce, tu parlais un peu de Reeves. Tu penses que il y a quand même aller dans l'effectif de quoi déjà avoir une bonne base pour si le physique tient évidemment, parce que c'est un peu le souci qu'ont eu ces Lakers tout au long de la saison. Toi, tu les vois enchaîner sur globalement le même effectif et puis être compétitif l'année suivante.
Dans le 5, il y aurait quand même peut-être une modification apportée au niveau du backcourt. Est-ce que tu gardes Reeves et Dilo? Il y a des limites, il y a des limites. Mais moi, je garderais Reeves parce que justement, il t'amène quand même pas mal de playmaking. C'est un mec qui n'a jamais froid aux yeux pour prendre des gros shoots en fin de match. Et encore une fois, dans le match 5, il porte les Lakers aussi. Hein. Il rentre des gros tirs. Donc, moi, c'est un mec que j'aime bien, Austin Reeves. Après, le faire jouer à côté de Dilo, bon, c'est pas forcément un cadeau défensivement, les deux. Donc, est-ce qu'il y aurait choses à changer? T'ajoutes Rui Hachimura, enfin voilà. Il y a un trop grand déséquilibre. Je crois qu'on avait parlé la dernière fois avec Max. On avait parlé du rôle de Jared Vanderbilt, qui, mine de rien, n'a pas joué, qui était blessé, qui t'apporte un peu plus de force défensivement dans le 5 majeur. Donc moi, j'aimais bien l'idée de le mettre à côté d'Anthony Davis. Malheureusement, il était blessé. Mais voilà, il faut travailler dans ce sens. Essayer d'ajouter des role-players qui collent parfaitement avec déjà ton duo de superstars. Vanderbilt en fait partie. Peut-être que Gabe Vincent, s'il n'est pas blessé, peut aussi apporter. Mais par contre, tout ce qui est Torian Prince, Dinwiddie, même Jackson Hayes, qu'est-ce qu'ils avaient récupéré, Cam Reddish, tout ça, c'est des paris, c'était des pièces en l'air, mais c'est des paris perdus. Donc voilà, il faut un groupe un peu plus solide, peut-être un créateur aussi, un vrai meneur créateur. Voilà, ça serait pas du luxe. Donc il y a du taf hein, quand même. Il y a du taf et la marge de manœuvre. Alors elle est un peu plus grande peut-être qu'à Phoenix, mais elle est pas énorme non plus côté Lakers.
Hein. Puis elle va dépendre un peu des envies de LeBron, surtout la marge de manœuvre, hein, parce que si il décide de suivre son fils, on sait pas trop ce que ça va donner cet été. Hein,
pour... les premières rumeurs disent que les Lakers sont prêts à drafter son fils. Alors bon,
c'est
une bêtise monumentale, hein, mais bon.
Ouais, moi je trouve que c'est à la fois une bêtise et en plus c'est vraiment pas juste parce que
bien sûr.
Par rapport à des mecs qui bossent, qui font des efforts et qui
vont. C'est ça. C'est pas juste par rapport au mec qui mouille le maillot pour essayer d'être drafté.
Ouais,
et puis c'est pas un cadeau à faire à Bronny non plus. Je pense que voilà, de drafter s'il a pas le niveau. Enfin, bon.
Bref. On verra bien l'été des Lakers. Pour finir très vite sur cette série, on en a tout petit peu parlé. Puis on aura probablement l'occasion d'aller un peu plus dans le détail. On a quand même le sentiment que cette équipe de Denver, elle est vraiment en contrôle. Même si pour eux les vrais playoffs, si je peux dire, vont commencer là avec cette série contre les Wolves. J'imagine que vous êtes aussi vraiment impatient à l'idée de voir cette série. Sylvain, tiens, pour enchaîner.
Ouais, très impatient, sachant que moi, il y a quand même quelque chose aussi, une petite alerte côté Nuggets, c'est que je trouve le banc nettement moins profond que l'an dernier. Ouais. Et alors là, honnêtement, tu as qui? Tu as Christian Brown qui apporte un petit peu, Peyton Watson, mais c'est uniquement pour faire souffler les titulaires.
C'est ça,
uniquement.
Ouais.
Là, autant l'an dernier, tu avais des Bruce Brown voilà, qui pouvaient faire des différences, qui pouvaient être un factor X en sortie.
Même Jeff Green qui avait fait des gros
playoffs. Jeff Green, voilà, ouais. Tu vois, chercher effectivement, il y avait Jeff Green. Là, c'est plus dur cette année, honnêtement. Et face à une équipe un peu plus profonde, tu vois, on parlait des Timberwolves, ouais. Je parlais de Nickel Alexander Walker, mais aussi Naz Reid, tu as deux forces comme ça en sortie de banc.
Ouais, côté Timberwolves, Naz Reid, mais ouais.
Dont les Nuggets ne vont pas pouvoir matcher sur la seconde unit. Voilà. Donc moi, c'est ma seule crainte. Après, bon, sur le papier, les Nuggets sont quand même favoris du fait qu'ils aient gagné l'an dernier. Du fait que, voilà, on a ce 5 majeur qui est complètement fou. On n'a pas parlé de MPG,
oui.
Mais il fait une série mais monstrueuse en termes d'adresse. Voilà, ça va être dur d'aller les déloger, hein, honnêtement. Très, très, très grosse série à venir.
Flo, ton avis sur cette série à venir, très vite? Denver Mini.
Denver Minnesota.
Ouais.
Moi, je me demande si le gagnant de cette série-là ne le champion en titre.
Ah ouais.
Au moins
ah,
sortir
ouais,
de
je
l'Ouest.
Balance.
Au moins sortir de l'Ouest, peut-être. Ouais. Ouais.
Après, à voir ce que va faire OKC de son côté, mais
alors,
non, c'est pas
y a le, oui, il y a le caillou dans les chaussures OKC, si je puis les appeler ainsi. Mais il mérite peut-être plus, c'est plus un rocher qu'un caillou. Mais ouais, je pense que cette série. Et je pense que Minnesota est l'équipe dans toute la ligue la plus taillée pour
oui, je suis
battre
d'accord avec
les
ça.
Nuggets. En termes
C'est
de
le pire
match-up,
match-up,
c'est
je pense. Ouais.
typiquement, c'est le pire match-up pour les Nuggets. C'est typiquement une équipe taillée pour. Ils ont une excellente défense. Ils vont pouvoir générer.
Ils vont limiter un peu Jokic.
Ils peuvent limiter Jokic avec le trio Towns, Reed, Gobert.
Rudy.
J'oublie Gobert malheureusement. Ils peuvent enchaîner les trois dessus. McDaniels peut, s'y gêne autant Murray qu'il n'a gêné Booker, etc. Ouais, ils ont vraiment des outils. Et puis offensivement, ils ont aussi de quoi faire mal. Je pense que ouais, c'est le, ça va être très compliqué. Je pense que ça peut être la série la plus compliquée, voire s'arrêter là pour les Nuggets. Et le vainqueur de cette série, ouais, je le vois aller très très loin. Pourquoi pas gagner le titre, ouais. Très certainement gagner le titre, je pense.
Ça me paraît pas déconnant. On verra sur la suite, mais effectivement, je pense qu'on s'embarque dans une série magnifique qui sera peut-être la plus belle série de ces playoffs au global. Donc,
sur le
espérons.
Papier, oui, on peut avoir un très très beau truc.
Ouais, sur le papier, on peut vraiment avoir une série où en plus, on a deux coachs qui savent s'adapter, on a des choses à faire. Donc, ouais.
Oui, ce sera une série à ne pas manquer. Espérons même que ça aille. Alors, je pense que du côté de OKC, je pense qu'on veut que ça aille à un match 7.
Ouais.
Parce que je pense aussi que OKC est très content que les deux équipes vont perdre sans doute beaucoup d'énergie. Je ne le souhaite pas, des blessures, mais ça peut arriver malheureusement. Beaucoup d'énergie. Donc, je pense qu'OKC ouais, va souhaiter une très très longue série avec, si possible, des prolongations. Mais, et comme. De manière générale, je pense que le vainqueur cette année sera à l'Ouest. Je crois. Mais donc ouais, cette série-là sera sans doute très déterminante pour le champion en titre, pour déterminer le champion.
Évidemment. Et puis donc transition toute parfaite. On finit donc cette première partie, pardon, avec la dernière série donc qui est désormais terminée, qui est donc la troisième série à l'Ouest, celle qui opposait donc le Thunder aux Pelicans. Et qui s'est donc terminé sur un sweep également du Thunder, ce qui est là aussi malgré tout une petite surprise, malgré l'absence de Zion, on imaginait que les Pels seraient capables d'en prendre un peu à l'image de ce Game 1, où en fait finalement, si le shoot de McCollum à la fin tombe dedans, peut-être qu'on n'a pas la même série, mais voilà, ils ne tombent pas dedans, et globalement sur la durée de la série, il n'y a pas vraiment photo. Également aussi dans la continuité de la saison, c'est un peu ce qu'on a dit pour Minnesota, pour Denver, ça s'applique aussi pour Oklahoma, ces trois équipes qui ont vraiment été dominantes tout au long de la saison et ça s'est vu sur ce premier tour, mais je trouve que des trois équipes, Oklahoma est peut-être celle qui est le plus montée en puissance et à l'image de la performance qu'a pu faire Jalen Williams qui sur la série, je trouve, a pris une ampleur vraiment folle. Alors, il est sur une énorme saison, mais je trouve que là, vraiment, il s'est imposé comme la troisième option, mais très, très, très crédible de cette équipe du Thunder. Il peut faire tellement de choses déjà. Il est très physique, il peut se créer son shoot, il est capable de prendre des shoots en fin de possession. Moi, je reconnais que ça a vraiment été mon chouchou sur ce premier tour au global. J'ai adoré sa série des deux côtés du terrain. Et globalement même, je trouve que cette équipe d'Oklahoma a un côté très, très rafraîchissant. Et ça fait plaisir de les voir continuer un peu dans la lancée de leur saison. Un peu de déception malgré tout pour cette équipe des Pelicans qui n'a jamais vraiment existé parce qu'en fait Ingram n'a jamais existé, mais parce que le Thunder a fait un boulot exceptionnel et notamment Lugans Dort en défense sur lui qui l'ont totalement menotté, il n'a jamais su trouver son rythme Et puis, c'est terrible pour cette équipe des Pelicans qui a l'air de progresser depuis maintenant 4 ans. Zion n'avait jamais joué autant de matchs de saison régulière. On avait le sentiment qu'ils avaient enfin réglé un peu leurs soucis physiques. Et patatras, ils loupent les 4 matchs les plus importants de la saison. Bon, c'est un peu dommage pour les Pelicans, mais d'un autre côté, ils ont globalement un effectif qui devrait conserver pour la saison prochaine. Je pense que ça peut progresser. Encore une fois, la même question pour commencer. Qu'est-ce que vous retenez au global de cette série? Tiens, Sylvain, pour commencer.
Plutôt des regrets, moi, de ne pas avoir vu Zion enfin en play-off. J'avais hâte, franchement, de le voir en play-off. Et il faut bien se rendre compte que la dernière fois qu'on l'a vu, il était à 40 points dans un match de play-in contre les Lakers. Il y avait égalité. Il faisait des dingueries. Et en fait, voilà, la machine pète au mauvais moment. C'est pas une grosse blessure, mais mine de rien, je crois que c'est les ischios jambiers, donc c'est toujours dérangeant, et puis t'en as au moins pour 15 jours, donc il fallait que les Pelicans passent ce tour pour le voir. Mais là, sans Zion, honnêtement, ils se sont fait manger défensivement. T'as parlé de Lou Dort, mais c'est toute l'équipe du Thunder qui a été énorme en défense, et les deux lieutenants de Zion qui normalement auraient dû monter en pression et auraient dû amener un petit peu plus, ont jamais eu l'occasion de s'exprimer. Tu parlais d'Ingram, il est passé de 21 points à plus de 49% de réussite en régulière. Là, il est tombé à 14,3% à 34,5% de réussite. Donc, complètement muselé. McCollum, lui, c'est à 3 points, il n'est qu'à 24%. Donc, il a pas été vraiment non plus en réussite. Et si Ingram et McCollum ne portent pas les Pelicans en attaque, c'est compliqué. Sans la gravité qu'amène Zion, il aurait fallu que quelqu'un step up. Ce qu'avait fait Ingram il y a quelques saisons, hein, quand les Pelicans, je crois que c'est contre les Suns, hein, Ingram avait été énorme. Mais là, malheureusement, non, c'était trop juste offensivement. Et le Thunder, on a l'impression, on a gardé vraiment sous le pied. C'était un premier tour finalement assez facile. Ils ont évité finalement sur le premier match de se rendre la série difficile en remportant premier match au forceps, et puis derrière, honnêtement, ils ont été tout en maîtrise. Ouais, ça a déroulé.
Je suis assez d'accord avec ça. Je trouve qu'il y a eu une vraie montée en puissance. Malheureusement, bon, je l'ai dit, si le shoot de McCollum tombe dedans, ça c'est les aléas du basket. Flo, sur cette série, t'es d'accord avec ça? C'est dommage que Zion ne soit pas là, mais en fait, même avec Zion, on a le sentiment que cette équipe d'Oklahoma, elle est en train de monter en puissance. Et tu l'as dit, ça devient un caillou très très sérieux, un rocher un peu dans les chaussures des équipes de la conférence Ouest, là, non?
Oui. Ils ont quand même réussi à bloquer les Pelicans à maximum 92 points. Hein. Ils les ont vraiment étouffés. Alors, d'une part, par une excellente défense. Ensuite, l'absence de Zion pose beaucoup de problèmes parce que Zion apporte quand même aussi un peu dans la création du jeu pour les Pelicans, et c'est vrai qu'ils ont pas su jouer sans lui.
Très vite, juste pour te couper, je trouve que celui qui a vraiment subi le plus, c'est Trey Murphy. Trey Murphy qui vraiment profite un peu de cette puissance de gravité de Zion en étant un excellent shooter. Là, sans ce côté, les défenses se resserrent sur Zion. On l'a vu prendre beaucoup de shoots très très loin, et même s'il en a mis quelques-uns, je trouve qu'il a vraiment été en dureté sur ce premier tour.
La présence de Zion, j'ai un peu ses camarades shooters, parce que avec lui, il est obligé d'attirer beaucoup la défense, ouais. Ne serait-ce que par son impact aussi physique. Donc parfois une prise à deux ou une prise à un, mais avec un deuxième défenseur qui regarde toujours du coin de l'œil. Là, le travail dans la raquette est très allégé, donc ils peuvent se concentrer sur les shooters, et les shooters sont cadenassés, et ils ont eu beaucoup, beaucoup de mal. Les shooters de la Nouvelle-Orléans, pardon, ont eu beaucoup, beaucoup de mal. Il a un côté gravitationnel à la fois en attaque et en défense. Quand il n'est pas là, ça se voit énormément. Et puis la défense des Pelicans est quand même assez juste, pour pas dire autre chose, et ils n'ont pas pu résister non plus à l'attaque d'OKC qui a été prolixe, donc ce qui n'est pas une marque de croquette pour chien, mais c'est un 1 contre un 8, a fortiori un 8 diminué, donc le 4-0 est finalement très logique. OKC a eu l'intelligence de comme les Nuggets, de ne pas faire traîner la série, de jouer le minimum pour pouvoir se reposer. Là, par exemple, ils vont se reposer alors que leurs futurs adversaires Clippers ou Mavericks vont s'affronter, vont s'user, donc c'est très bien. Ils vont pouvoir soigner les petits bobos, préparer à la vidéo les matchs et puis souffler, donc c'est parfait. C'est pour ça aussi que le premier tour, c'est important quand tu as des ambitions de ne pas perdre de temps.
C'est ça, et globalement, ils ont fait le boulot. Pour finir sur la saison des Pelicans, Sylvain, est-ce que tu es d'accord avec le fait qu'il y a une montée en puissance et que finalement, sans cette absence de Zion, on a le sentiment que ces Pels auraient pu faire mieux et donc repartir un peu moins la tête basse et moins avec ce sentiment de régression, si je peux dire.
Ouais, bah là, honnêtement, c'est une série vraiment à oublier, hein, côté Pelicans. Une saison qui se termine un peu en eau de boudin avec des regrets, encore une fois, avec la blessure de Zion, c'est vraiment dommage. On a l'impression que cette équipe, vraiment, elle a pas le même visage avec et sans lui. Il y a quand même quelques petites choses à changer. Moi, je pense que l'expérience Valanchunas a assez duré. J'aime bien le joueur.
Il a fait agence cet été, d'ailleurs.
Ouais, mais il ne sert plus à grand-chose défensivement. C'est compliqué, surtout face à une équipe du Thunder comme ça. Il a vite été remplacé par Larry Nance Jr. Je me demande si Larry Nance Jr. n'a pas plus de minutes sur la série que Jonas. Hein. Voilà, donc je pense que s'il y a quelque chose à changer dans cette équipe, d'abord, ça serait au niveau de l'intérieur. Sinon, le reste est très correct, hein, pour moi. Hein. Ingram, si Zion est là, il a un peu moins de pression et il peut mettre des tirs. CJ McCollum, c'est la caution, on va dire, expérience. Donc, elle est assez bien construite, cette équipe des Pelicans. Le seul problème, encore une fois, c'est les blessures, malheureusement.
Ouais, je suis allé voir, il joue 90 minutes sur la série Valanchunas. Larry Nance Jr., c'est 84.
Donc, effectivement, ouais, voilà, c'est grosso modo. Et honnêtement, quand Larry Nance Jr. est là, alors ok, t'as moins de puissance physique sous le cercle, mais il amène d'autres trucs. Déjà, il switch beaucoup plus en défense. Hein, c'est un profil comme ça qui peut switcher sur trois postes au moins. Et lui apporte des vraies minutes de qualité. Jonas, selon l'adversaire que tu as, ça peut être très compliqué. Et en playoff, ça peut être un poids. Je comprends aussi le coach, hein, Willie Green, qui l'a fait sortir rapidement.
Oui, et puis pour finir sur le cas Valanchunas, moi je m'attendais à ce qu'il soit vraiment dominant au poste sur Chet Holmgren, où en fait je pensais que son impact physique et son expérience, son jeu un peu à l'européenne lui permettraient d'avoir un impact sur cette série. Ça n'a pas du tout été le cas, où Holmgren en fait a vraiment encaissé, excepté quelques actions où on a vu tourner les clips, mais... sur la globalité, je trouve que Holmgren a fait un boulot vraiment exceptionnel. Sur
en défense, et puis en attaque, il est beaucoup plus mobile. Donc, c'est obligé aussi Jonas à sortir. C'est, hein. C'est pour ça que je te dis que c'est compliqué. Dans ce genre de duel, Jonas, il vaut mieux qu'il soit sur le banc. Et Larry Nance Jr. est plus adapté pour moi.
Oui, je trouve que ses carences ont vraiment été mises à jour. Et son côté physique, il n'a pas servi du tout. Donc, pour finir sur cette série, très vite, est-ce que Oklahoma est petit à petit en train de s'imposer comme le troisième candidat au titre alors je mets de côté les Celtics dont on n'a pas encore vu grand-chose, mine de rien, mais est-ce que derrière Denver et Minnesota, là, Thunder est en train de montrer les crocs et finalement dans une saison où on s'attendait... alors où ils font une énorme saison régulière, mais où on se demandait en play-off si leur plafond de verre n'était pas finalement de passer une voire deux séries. Est-ce que là, ils ne sont pas tout doucement en train, même eux, de commencer à croire au titre, Flo?
Alors, on finit premier de sa conférence. On est ipso facto plus ou moins un favori, on est à minima un outsider, mais pour pas dire quand même, je pense qu'on est quand même forcément un peu favori. Mais c'est vrai qu'il y avait des doutes, parce qu'ils découvrent un petit peu le statut d'abord de favori et les playoffs, mais comment dire, ils ont quand même eu un premier tour assez comme entrer en matière, c'était vraiment pas ce qui avait été plus compliqué, c'est-à-dire qu'ils tombent contre une équipe qui n'a pas forcément les arguments. En termes de match-up, c'était plutôt bon pour eux. Et en plus, Zion n'étant pas là, ils tombent quand même contre une équipe un peu bancale. Donc, c'est une excellente entrée en matière, mais ils l'ont parfaitement réussi. Et c'est sûr que ça va leur donner sans doute un peu un gain de confiance, etc. Donc, ouais, c'est très clairement... pour moi les, si je dois faire quatre favoris, ou plutôt trois, OKC dedans, très clairement. De toute façon, il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas favoris. Ils finissent premier à l'Ouest. Pour l'instant, ils ont l'air d'avoir un effectif au complet. Pas de blessure majeure, en tout cas. Donc, on est obligé, oui, de les prendre très au sérieux. Ils n'ont pas fait dans la dentelle au premier tour. Ouais, je les vois quand même s'imposer, quel que soit leur adversaire au prochain tour. Je les vois vraiment pas chuter. Je ne vois ni Dallas ni les Clippers se faire tomber au OKC. Je suis même pas sûr qu'ils les fassent beaucoup trembler. Donc, ouais.
Une fois que tu es en finale de conférence,
je les vois facilement en finale de conf. Après, finale de conf, de toute façon, ce sera très compliqué, surtout à l'Ouest. Mais ouais, ils savent défendre et ils savent attaquer. Quand tu sais faire les deux, c'est quand même bien parti pour avoir des ambitions. Mais parce que c'est vrai, offensivement, ils ont une palette assez efficace. Et défensivement, ils ont quand même de très bons atouts aussi. Donc on est obligé de les prendre au sérieux. C'est sûr que mentalement, on a quand même l'impression que c'est une équipe qui a l'air de bien gérer la situation. Elle est très jeune. Elle n'est pas habituée à monter aussi haut, à avoir d'aussi grandes ambitions. Pour l'instant, même si l'entrée en matière était facile, ils ont l'air quand même de gérer la chose. Tant mieux pour eux, tant pis pour leurs adversaires.
Exactement. Si Sylvain, tu es d'accord avec ça, ou c'est vraiment la troisième équipe de ces playoffs pour l'instant ?
Non, moi je les mets derrière Dallas et les Clippers. Ouais, mais du fait de l'inexpérience. Après, c'est plus l'histoire qui me fait dire ça. Tu vois, je les mets un peu dans le costume des Grizzlies il y a 2 ans, quand l'équipe est inarrêtable en saison régulière, mais ça se casse les dents en demi-finale, parce que un peu moins d'expérience, tu découvres le haut niveau. Après, je dis pas qu'ils vont se faire sweeper, ils vendront chèrement leur peau, mais j'ai peur qu'à l'expérience, les Clippers et les Mavs les grattent un petit peu. Ceci dit, quoi qu'il arrive, c'est une saison réussie. S'ils tombent en 7 matchs contre les Mavs ou les Clippers, c'est déjà réussi. Mais moi, j'ai peur quand même qu'au bout d'un moment, l'inexpérience de ce groupe se paye. Si je me trompe, tant mieux pour les fans du Thunder. Mais j'ai un petit peu peur de ça quand même.
Oui, ouais, c'est une des interrogations que j'ai encore sur cette équipe-là, et aussi sur le fait de répondre un peu dans l'adversité. Parce que
là, c'est vrai qu'ils n'ont pas été mis du tout en danger par les Pelicans. Tu vois, ils auraient par exemple perdu un match chez eux à domicile sur les deux premiers. Il faut aller en regagner un à l'extérieur. Bah là, ils n'ont pas cette expérience. Ils ont roulé sur les Pelicans. On va voir maintenant s'ils ont des matchs plus accrochés en demi-finale, comment ils vont réagir. Moi, j'attends surtout la réaction face à l'adversité, qu'ils n'ont pas eu pour le moment.
Oui, je suis d'accord. Moi aussi, j'attends de voir ça, effectivement. Des réactions qu'on attendra et qu'on aura normalement très vite. On finit donc sur cette première partie, un peu bilan des séries déjà terminées. On fait une petite pause et on reviendra donc pour une seconde partie où on reviendra vraiment de façon beaucoup plus succincte sur les séries encore en cours, avec, comme je vous le disais, à chaque fois une ou deux questions auxquelles nos magnifiques chroniqueurs pourront répondre. Allez, à tout de suite. On continue donc avec cette seconde et dernière partie de ce podcast. Comme je vous le disais, on va revenir sur les séries qui sont encore en cours. On va commencer pour finir les séries à l'ouest sur la série Los Angeles Clippers Dallas Mavericks. Donc une série qui en est actuellement en deux partout. Il y aura donc le Game 5 cette nuit du côté des Clippers. Donc on enregistre le 1er mai. On a le droit à une série quand même serrée, tendue, un peu comme attendue, pour la répétition, avec des stars qui, mine de rien, sont au rendez-vous des deux côtés, et puis une dimension physique, notamment dans les absences, qui prend beaucoup de place dans cette série, un peu à l'image de Kawhi et des petits soucis que peut avoir Doncic, même si pour l'instant, il continue à rester sur le terrain. À noter d'ailleurs que c'est la seule série où aucune équipe n'a gagné 2 matchs de suite. Donc on voit bien que pour l'instant, personne n'a vraiment réussi à prendre l'ascendant. Et le match 5 de cette nuit sera probablement brûlant et vraiment déterminant pour la suite. Donc je vous le disais, j'ai quelques petites questions à vous commencer, à vous poser, pardon. La première, tiens, pour toi, Flo. Est-ce que tu es impressionné par la qualité de ces Clippers sans Kawhi? En intro, on avait quand même le sentiment que cette équipe des Clippers avec Kawhi était globalement meilleure que Dallas, mais son absence pourrait leur porter préjudice. On se rend compte que c'est tout l'inverse. Ils ont gagné les deux matchs sans lui, ils ont perdu les deux matchs avec lui. Est-ce qu'il t'impressionne, ces Clippers sans lui?
Ah, c'est sûr que c'est pas le scénario.
C'est pas ce qu'on avait prévu. Hein.
C'est exactement, c'est pas le truc le plus logique. Après, on a quand même vu, notamment dans le dernier match de Leonard, qu'il était vraiment blessé. Il faisait de la peine. Et à ce niveau-là, il est tellement handicapé en fait, qu'il devient handicapant. Donc finalement, la meilleure chose pour eux, c'est peut-être qu'il ne joue pas. Quitte à être viable pour la série d'après, 6 séries, mais là il était vraiment dans un état physique, il n'y arrivait pas, des deux côtés du terrain, il était trop en difficulté, donc finalement il devenait plus un problème qu'autre chose, donc qu'il le laisse se reposer. Après oui, c'est surprenant, bien sûr, ton meilleur joueur n'est pas là et finalement ça se passe bien parce que
James Harden est monté d'un cran quand même.
Exactement, parce que autour de lui il y a des bons joueurs et principalement James Harden qui fait quand même une très bonne série, qui prend les choses en main, qui fait ce dont pourquoi il est là, qui met un petit peu les points sur les i sur son talent, et puis les autres coéquipiers font aussi des bonnes choses. Il y a quand même un effectif du côté des Clippers. Bien sûr qu'il y a les stars, mais on a parlé des Suns tout à l'heure. Les Clippers, ce n'est pas les Suns, c'est-à-dire ce n'est pas trois stars et le vide autour. Ils ont quand même des... Mason Plumlee est un bon joueur. Terrence Mann, Norman Powell sont des bons joueurs. Zubac est souvent critiqué, mais c'est un pivot que tu peux faire jouer en play-off sans que ce soit une catastrophe. Il y a quand même Russell Westbrook aussi, etc. Il y a quand même des bons joueurs dans cette équipe. Il y a des bons role-players. Donc quand tu as comme ça un effectif avec des bons role-players, tu peux essayer de bricoler un truc qui fonctionne et qui passe. Et c'est ce qui se passe pour l'instant. Donc, surpris, pas tant que ça. Et en avant les Clippers, ils peuvent y croire. Moi, je pense qu'ils doivent y croire jusqu'au bout, en tout cas.
De toute façon, là où ils en sont, c'est loin d'être terminé.
Oui, ils n'ont rien à perdre. Hein. C'est une bête blessée.
C'est ça, pour le coup.
Il n'y a rien de plus dangereux qu'une bête blessée.
Ils n'ont rien à perdre. Ouais. Alors qu'on s'attendait globalement à une série vraiment offensive, excepté le match 4, il n'y a jamais eu les deux équipes qui ont dépassé les 100 points dans cette série. Sylvain, est-ce que pour toi c'est plutôt la défense qui va définir cette série plutôt que le talent de tous ces joueurs offensifs, que ce soit Irving, Paul George, etc.? Est-ce que finalement c'est pas la défense qui va décider de qui va passer?
Comme souvent play-off, hein, l'équipe qui défend pas de façon a aucune chance. Mais c'est vrai que là, on a plutôt l'habitude de joueurs qui ne défendent pas beaucoup, qui là sont obligés quand même de sortir les mains des poches. Je pense à Harden, hein, qui en plus de gêner énormément les lignes de passe comme il fait habituellement, se bouge un peu plus quand même. C'est une équipe qui défend bien de toute façon les Clippers, mais ils n'ont pas été réguliers dans ce secteur cette année, c'est-à-dire que en début de saison ils étaient parmi les cancres, après lors de leur run ils étaient de nouveau dans les meilleures défenses. Donc quand tu as du matériel pour défendre, normalement en play-off tu dois pouvoir compter dessus. C'est l'une de tes valeurs refuge en tout cas la défense. Quand tu sais défendre, tu peux voyager, l'attaque et l'adresse c'est plus fluctuant par définition, donc forcément ça va jouer beaucoup, mais je reste persuadé que ça va être des matchs serrés, que ça va jouer peut-être sur un coup de génie de Luka ou un coup de chaud de Paul George.
Ça reste quand même une série de superstars quand même.
Ouais. Ça reste une voilà, c'est exactement ça. Pour moi, c'est une série de superstars avec des très bons role players autour qui peuvent être facteur X sur un moment du match. Voilà, Dallas, moi je suis quand même déçu par contre sur, au niveau profondeur. Josh Green ne sert pas à grand chose, Tim Hardaway Jr. et aux abonnés absents.
N'existe pas, ouais.
T'as des mecs comme ça qui étaient quand même assez bons en régulière et qui là n'apportent pas du tout ce qu'ils doivent. PJ Washington est plutôt bon, mais c'est vrai que derrière le duo Kyrie Luka, voilà, c'est un peu plus limité. Là où les Clippers sont un peu plus deep pour moi quand même.
Ok. Donc globalement une série qui n'a vraiment pas encore donné tous ses mystères, si je peux dire. On va voir, mais franchement, j'imagine quand même cette série durer et j'espère voir un Game 7, parce que globalement, les Game 7 de Lucas sont toujours intéressants. On a donc fini avec les séries de l'Ouest. On enchaîne évidemment avec les séries à l'Est
Je peux
et
dire
on
un
va
bref
commencer.
mot?
Comment?
Je peux dire un bref mot juste sur Dallas?
Oui, vas-y, vas-y, ouais, bien sûr.
Je suis très... Moi, je trouve que cette série montre quand même un peu le plafond de cette équipe qu'on a vu en fin de saison régulière à blinde à fond. Beaucoup de gens voyaient très haut cette équipe avec le super duo. Mais je trouve que moi, cette série, elle montre quand même ils galèrent face aux Clippers. Je trouve que, enfin voilà, je trouve que c'est une équipe qui, enfin c'est une série qui montre énormément les limites de cette équipe. Et c'est pour ça que je pense qu'honnêtement, OKC si, les massacrera, mais si déjà ils sortent, ce qui n'est pas fait. Et gros problème, quand Doncic est sur le banc, c'est une catastrophe. Hein. Irving seul n'y arrive pas.
Pour l'instant, c'est un peu les trous de Dallas, effectivement. Donc, je disais, on enchaîne donc avec les séries de l'Est. Et on va commencer avec la série qui est peut-être celle avec l'intensité la plus folle de ces playoffs. Je veux évidemment parler de New York-Philadelphie. Donc, New York qui mène désormais.
C'est pas Orlando Cleveland.
Bah, j'ai voulu le vendre comme ça, mais j'ai
Ok.
peur que les gens ne me croient pas, Sylvain. Genre,
Bon,
je
tant
sais
pis.
que toi, tu me crois, mais
Bah oui.
bah, les autres ne seront pas d'accord. Donc, je suis obligé de dire que la série la plus folle en termes d'intensité, ça reste New York-Philly. Donc, New York qui mène désormais plus que 3-2, d'ailleurs. Globalement, c'est une énorme bagarre de tranchées, hein, cette série. Ça ne. La question majeure, c'est qui va survivre à la fin de la série et combien de joueurs vont rester encore en forme. On a eu une première balle de match qui a été un peu gâchée, mine de rien, par New York à domicile, donc lors du Game 5, où ils menaient de 5 points à 1 minute 30 ou même beaucoup, 1 minute de la fin.
6 points, ouais,
Et
6 points, je crois, ouais,
ouais,
c'est ça.
oui, 6 points, t'as raison. Et où, en fait, ben, même quand il mène de plus 3, que Maxi remonte la balle, ça, c'est un concept que je ne comprendrai jamais. Ben, faut faire faute et t'as ton destin entre les mains, mais bon,
Ça,
bref.
c'est clair.
Donc, ouais, ce qui est peut-être la série la plus disputée de ce premier tour, avec un Embiid sur une jambe, mais un Maxi en feu qui compense. La première question que je voudrais vous poser, et tiens, vas-y, Flo, tu vas commencer sur ça. Est-ce que pour toi, Philadelphie peut tenir physiquement sur cette intensité, même jusqu'à la fin de la série? Parce qu'on a quand même l'impression que Embiid est vraiment dans le dur, Maxey a eu quelques interrogations sur son physique. Est-ce que les Sixers, pardon, à un moment, ils vont plus pouvoir encaisser le fait de durer et de jouer tous les 2 jours des matchs comme ça?
Tu me demandes les Sixers, tu dis moi Embiid, parce que c'est pas tout à
Oui,
fait.
c'est
C'est
vrai.
surtout
Oui, j'aurais pu
lui
dire
en fait.
Embiid, en fait, t'as raison, oui.
C'est-à-dire que c'est les Sixers, j'en sais rien, pourquoi pas. Embiid, j'ai plus d'inquiétude parce que bah, on le voit et on le sait, c'est pas un secret, hein. Il communique là-dessus. Embiid, il est pas du tout à 100%, il a un traitement assez lourd, etc. Ouais, 6-7e match il y a, dans quel état il sera? Je pense que les Sixers ont intérêt en effet à essayer de raccourcir cette série, mais là ils sont
Bah là, il faut aller en
à
7, là, ils n'ont
3-2,
pas le choix,
donc
les
pour eux il y
Sixers.
aura forcément un match 7. Et il y a une grande interrogation en effet sur l'état physique d'Embiid. Va-t-il pouvoir continuer ainsi? Je ne sais pas, c'est l'interrogation. Il y a un sacré combat de rue. Mais en même temps, enfin oui, un combat de rue, c'est très intense. Il n'y a pas que ça non plus, mais les Sixers résiste comme si en même temps ils étaient censés être favoris dans cette série quand même. Mais malgré le classement, on sait bien que le classement, la septième place des Sixers,
c'est pas une septième place, oui.
Et c'est pas une septième place, on le sait tous. Mais c'est sûr que si Embiid craque, ça va être compliqué parce que même si Maxey est l'auteur d'un très bon match pour ce match 5, ça ne suffira pas tout seul. Ils ont besoin absolument d'un grand bid et on voit clairement qu'il est dans le rouge. C'est pas de sa faute, hein, mais il est dans le rouge. Donc, c'est pour ça que je suis assez pessimiste pour les Sixers sur la série. Il faut qu'ils gagnent deux matchs de suite. Dans cette série, je ne suis pas sûr qu'il soit capable de le faire avec un Embiid aussi affaibli.
Contesté, mine de rien, parce que les Knicks lui mettent des physiques et ils lui rentrent dedans. Quoi. Ils ne sont pas là pour le
laisser tranquille. Hein. Hartenstein le fait parfaitement, entre autres. L'absence de Randle, finalement, les Knicks s'en passent plutôt bien. Mais ouais, ils ont du répondant à mettre sur un bide, ce qu'ils usent aussi. Donc, je suis assez inquiet. Ouais. Encore deux matchs pour lui, ça va être compliqué. Et clairement, il ne doit pas y avoir d'autres absences côté Sixers, hein, parce qu'ils sont quand même, ils sont quand même dans le rouge, je pense. Et ils ont... Hier, par rapport au jour où on enregistre, ils ont quand même eu besoin d'un Maxey qui a sorti un grand match. Mais est-ce qu'il va faire ça à chaque fois? J'en doute un peu.
Ouais. Sylvain, sur les Knicks, est-ce que tu n'as pas l'impression qu'ils ont... Enfin, ils ont laissé passer une chance hier soir, ça, on est totalement d'accord. À quel point tu penses que ça peut les impacter et faire un peu tourner le momentum de la série au-delà de l'absence d'Embiid? Si Embiid est là, est-ce que tu estimes que ce match peut leur faire vraiment mal à la tête ou au contraire, c'est une équipe qui a montré pas mal de ressources durant la saison et qui est totalement capable d'aller chercher ce match 6 à Philadelphie et donc s'éviter un match 7 où on ne sait jamais ce qui peut se passer pour le coup?
Ouais, ils en sont capables, honnêtement. Moi, j'ai plutôt l'équipe, l'image d'une équipe de combattants, commandos, vraiment en mission défensive, qui est prêt à plonger sur le terrain pour chaque ballon. Enfin, c'est vraiment incroyable au niveau intensité. Je te charlie tout à l'heure au niveau intensité. Effectivement, c'est une série qui est incroyable. Il y a même des coups un peu durs. Hein. Moi, j'avais pas l'habitude de voir Embiid mettre quand même des sales coups. Après,
est-ce qu'Embiid est un dirty player?
Honnêtement, non, bah. Il joue intérieur, honnêtement, il en prend des coups aussi. Un certain moment aussi, tu rentres l'appareil, c'est complètement normal. Mais tu vois, là, cette nuit, il a été pris plusieurs fois à deux, pris dans la nasse, il perdait des ballons, on voit qu'il est gêné physiquement. Le match où il met 50 points, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, parce qu'il y a beaucoup de shoots externes. Dans le troisième quart-temps, je ne sais plus, il a une adresse irréelle, il met trop 4-3 points dans le quart-temps. Donc voilà, il a marqué des points comme ça aussi externes. Mais les Knicks lui infligent un tel combat que... physiquement, c'est impressionnant et il n'y a pas de raison pour que dans le match 6, ça soit différent. Même à l'extérieur, on a vu qu'ils ont été capables de gagner à Fila. Moi, je pense que là, effectivement, c'est une cartouche de perdu, mais il en reste deux au Knicks. Donc, pas de précipitation,
pas de panique.
En tout cas, pas de panique. Sachant qu'ils ont gagné aussi un match un peu miraculeusement. Quelque part, je crois, sur le buzzer beater de Vincenzo, c'est un match qu'ils ne devaient pas gagner.
Non.
Bon, bah là, ils en perdent un qu'ils devaient gagner. Sur une série, ça s'annule. Ça va être très intéressant. Le prochain match à Fila, ça va être encore hyper tendu. Après les Knicks, il y a une chose aussi, c'est quand même le système Thibodeau qui utilise tout le temps ces mêmes joueurs.
Un peu, ouais.
Là, moi, quand tu vois le minutage,
l'heure,
c'est pareil. Oui, c'est vrai.
Notamment parce que des mecs comme Buddy Hield, je sais pas ce que fout Buddy Hield dans cette série, hein, mais il joue pas au basket. Hein.
Non, je sais. Melton aussi. En fait, ils ont tellement un effectif resserré qu'ils sont obligés de tirer sur les titulaires. Là, celui qui va sortir de cette bataille va être nettement amoindri quand même physiquement au prochain tour. Hein. Parce que là, ils sont en train de tous y laisser des plumes. Même Jalen Brunson, ok, il fait des perfs énormes.
Il prend des coups. Hein.
Mais il prend des coups. Waouh, la vache. Enfin, c'est incroyable. Hein.
Il est tanké. Le match, il a le visage marqué. Ça, c'est impressionnant.
Ouais. Non. C'est combat de boxe. Donc, c'est bien. Moi, c'est des séries à l'ancienne. Hein. J'aime beaucoup, mais
bien malin.
C'est ça, ouais, mais bien malin, hein, qui pourra dire qui sortira vivant de cette série, tellement elle est usante.
On enchaîne donc avec une autre série tout aussi usante, mais où globalement ça n'a pas été la même bagarre sur tous les matchs. La série qui oppose donc les Cleveland Cavaliers aux Orlando Magic. Les Cavaliers qui mènent donc 3-2 après une victoire cette nuit. Bon, on a eu 4 matchs à sens unique sur les 4 premiers où il n'y avait vraiment pas de débat. On a eu 2 victoires de Cleveland sans débat, puis 2 victoires du Magic où Cleveland n'existait pas vraiment. Hier, on a enfin eu un vrai match avec un réveil collectif globalement des Cavs sans Allen, qui donc est blessé, mais j'ai pas l'info, mais je crois qu'il sera de retour dès le prochain match.
C'est une contusion, donc je pense que c'est ça. Effectivement, c'est pas très long. Ouais.
Et donc un Evan Mobley qui a été décalé en 5. Bon, je vais un peu plus parler des Cavs évidemment, hein, mais globalement on a un Garland qui a enfin commencé la série, Max Strus qui a mis un peu dedans. On a revu un peu de Marcus Morris qui est sorti de sa boîte, qui apporte un peu d'agressivité. Et puis si enfin ça peut permettre de voir George Niang sortir du terrain, moi je prie pour ça tous les jours. Mais voilà, donc un vrai match, pardon, une victoire des Cavs, mais une équipe du Magic qui a été dans le match tout le long, qui a eu le shoot de l'égalisation avec Franz Wagner. Côté gauche et main gauche, France, hein, ça on l'apprend en école de basket, mais bon. Un Banchero qui a enfin sorti vraiment un gros match hier, je trouve qu'il a quasiment lancé sa série. C'est marrant parce qu'on dit qu'une série de play-offs commence quand il y a eu une victoire à l'extérieur, il n'y a toujours pas eu de victoire à l'extérieur, donc cette série, en fait, elle n'a pas encore commencé. Mais bon, plus globalement, Cleveland est quand même dans du bon côté, là, avec 2 balles de match, même si je ne serais vraiment pas du tout étonné si la série s'étire sur un Game 7. Je vais commencer par toi, Sylvain, et puis tu vas nous parler un peu d'Orlando globalement, et avec un peu en focus, est-ce que tu penses que Banchero peut enchaîner sur les performances du match d'hier après un début de série qui était quand même un peu compliqué, notamment en termes d'adresse et en termes d'attaque?
Non, je pense pas, et je pense que c'est pas souhaitable qu'ils refassent un tel match. Si Orlando va avoir une chance, il faut que la marque soit un peu plus répartie. Je pense. On sait que l'attaque, c'est le gros problème du Magic cette année, mais plus il y a de joueurs concernés qui arrivent à rentrer des tirs, mieux c'est, plutôt que tout focaliser sur un joueur. Hein. Banchero finit à 37 ou 39 cette nuit. Voilà. Après, il en marque énormément en première mi-temps et il s'éteint un petit peu au fur et à mesure. Mais moi, j'aime mieux je préfère avoir Banchero et Wagner à 20 points chacun plutôt qu'un à 35 et l'autre à 10. Malheureusement, c'est un peu ce qui s'est passé cette nuit. Et c'était l'inverse sur la victoire du Magic où là, Wagner était en feu. Voilà. Il faut responsabiliser un peu plus les autres joueurs. On n'a que 3 joueurs. Quand je dis c'est le Magic. On n'a que 3 joueurs au-dessus de 10 points. Si tu ajoutes Suggs, tu as le trio et derrière, tu en as un qui va se montrer de temps en temps et puis le match d'après on le voit plus. Isaac a eu des bons passages offensifs, alors défensifs, ça reste top, mais offensivement il amène et puis des fois on le voit pas. Mo Wagner, il y a quelques coups de canon, gros dunk et tout, mais c'est pareil, c'est compliqué. Même Wendell Carter Jr. met 2 tirs à 3 points hyper importants dans le match 4. Là c'était plus dur dans le match 5, enfin voilà, je pense que plus il y aura de joueurs responsabilisés en attaque au sein du Magic, plus l'équipe aura une chance de faire tomber ses Cavs.
Oui, globalement je suis un peu d'accord avec toi, je pense que c'est 2 équipes qui se ressemblent un peu, mais hier on a vraiment vu une équipe de Cleveland qui jouait collectif, et je trouve que c'est ce qui a fait la différence.
Oui, et puis il y a des mecs qui ont remis le nez à la porte. Hein. Max Strus met des paniers hyper importants alors qu'il n'avait rien mis avant. Donc ça change la donne.
Et puis même en défense, je l'ai trouvé un peu plus concerné et tout. Mm-hmm. Donc je suis d'accord avec toi. Flo, c'est une série qui. Ça pue le Game 7, ça, on est d'accord, non?
Ouais. Très clairement, ouais. Ouais, je vois. Comme tu dis, ils n'arrivent pas à gagner à l'extérieur, donc c'est compliqué. Mais oui, ça peut terminer sur. Alors, j'ai un peu l'impression quand même que l'équipe qui gagnera, c'est celle qui sera la moins mauvaise.
C'est-à-dire
c'est je ne sais ouais. pas. Je suis convaincu par aucune des deux équipes. Alors, les Cavs, c'est sûr, ont eu des petits pépins de blessures, mais une fois de plus, hein, je trouve quand même que c'est pas tranchant, les Cavs. Quoi. C'est comme un peu la saison dernière, ils sont quand même pas loin de rater une marche. Alors après, est-ce qu'Orlando est un match-up compliqué pour eux peut-être, et encore... je sais, ouais, j'ai l'impression qu'aucune des deux équipes... les deux équipes veulent la victoire, mais elles font pas ce qu'il faut pour. Mais je sais pas, j'ai un goût d'inachevé dans cette série.
Tu vois pas vraiment une équipe qui prend l'ascendant, mine de rien, quoi.
Ouais, je sais pas si c'est la meilleure des deux, je pense que ce sera la moins mauvaise des deux qui gagnera, quoi. Je sais pas... De toute façon, on est bien d'accord qu'elle jouera ensuite les Celtics, donc en plus, ouais. Ça va se servir de sparring partner au tour d'après, mais tant mieux pour les Celtics.
Ça dépend quelle équipe des Celtics, hein. Moi je ne serais pas...
S'il n'y a pas Porzingis, c'est ça
Ouais.
Ouais, ouais. Bizarrement, je vois plus Orlando poser des problèmes aux Celtics que les Cavs. Mais...
Oh, le hater.
Non, mais parce que je crois plus en la défense extérieure d'Orlando qu'à Donovan Mitchell.
Oui, mais, je comprends.
Mais ouais, je sais pas. Alors j'avoue que cette série m'emballe pas trop, j'avoue.
C'est ce que j'allais dire. J'ai l'impression que ça t'emballe pas trop.
Non.
Donc c'est pas grave, on va enchaîner avec donc les deux séries qui nous restent à l'est, et on va enchaîner avec la série qui oppose donc les Bucks aux Pacers. Qui, pour le coup, est une série où les matchs sont plutôt agréables à regarder, même si ce n'est pas non plus une intensité folle comme on peut voir à New York, ou une qualité exceptionnelle dans les matchs comme on a pu voir sur certaines séries à l'Ouest. Indiana qui ne mène plus que 3-2, donc après avoir laissé passer, si on peut dire, une balle de match à Milwaukee. Milwaukee qui jouait, mine de rien, sans Giannis, sans Lillard. Donc on avait quand même l'impression que c'était le moment pour Indiana de prendre ce match. On a vraiment eu un non-match de la part des Pacers, mais c'est une équipe qui peut vraiment s'éteindre à tout moment sans raison particulière, un peu à l'image d'Haliburton, qui est vraiment dans le dur sur cette série, et surtout d'un Siakam qui sort une énorme série et qui là dans le Game 5 est totalement inexistant. À noter du côté des Bucks que Chris Middleton fait vraiment une grosse série et qu'hier Portis a quand même tenu la baraque pour les maintenir en vie. On prend donc la direction d'un Game 6 à Indiana. Bon, c'est typiquement le genre de match que les Pacers peuvent prendre. De toute façon, c'est une équipe qui peut, sur un match, battre quasiment tout le monde. Un peu à l'image de ce qu'ils ont fait cette saison, notamment dans le In-Season Tournament, où en fait, sur un match, comme je disais, ils sont capables de prendre feu et de battre quasiment tout le monde. Tiens, Flo, tu vas enchaîner sur ça. Est-ce que tu as le sentiment que Indiana peut complètement craquer ou est-ce que, au contraire, le fait d'avoir laissé passer ce match 5, ça t'inquiète pas trop du fait qu'ils retournent à la maison et qu'à la maison, c'est quand même globalement pas tout à fait la même équipe?
Non, on ne sera pas forcément non plus la même équipe en face. Hein. Il y a de plus en plus de rumeurs persistantes sur un retour de Giannis. On parle aussi de Dame, je serais un peu plus surpris vu sa blessure, mais en tout cas de Giannis. Forcément, ce ne sera plus la même limonade. Il peut y avoir une peur de gagner, un peu. Oui, ça peut commencer à gamberger dans leur tête. Il ne faudra pas que le match qu'ils viennent de perdre, qu'ils le regrettent amèrement. Parce que quand tu joues les Bucks... Sans Giannis et sans Lillard, tu dois quand même en playoff, tu ne dois pas le laisser passer. Et là, ils l'ont laissé passer, ça peut leur coûter très cher. Ouais, la machine peut s'enrayer, ça peut un peu paniquer. C'est pas impossible, très clairement. Faut justement, si une équipe ne doit pas trop réfléchir, entre guillemets, ils connaissent leur jeu, il faut qu'ils jouent leur jeu. Il faut mettre du rythme, surtout pas qu'ils commencent à tomber dans un faux rythme dans ce match. Ils connaissent le piège, maintenant il faut l'éviter, mais des fois tu te focalises tellement sur le piège que tu finis par tomber dedans alors que tu sais qu'il ne faut pas faire ça. Mais la grande interrogation pour moi, elle ne vient pas tant que ça des Pacers, elle vient des Bucks qui ouais. va jouer, qui va être starter. Est-ce que, parce que même s'ils ont gagné son Giannis, c'est quand même mieux de l'avoir. Et sera-t-il là au match 5 moi, je pense que... J'ai dit match 5, c'est match 6. Mais parce que très clairement, les Bucks, ils sont quand même au pied du mur. Hein. Donc, est-ce que c'est pas... Est-ce qu'il ne faut pas tenter quoi qu'il arrive Giannis ? Ça dépend de son état de physique, mais pour moi, la vraie question, elle est là. C'est qui va jouer côté Bucks ?
Eh bien, tu fais très bien, parce que c'était justement la deuxième question que j'allais poser à Sylvain. Est-ce que, selon toi, Milwaukee doit un peu forcer les retours de Giannis, voire Lillard, pour vraiment... parce qu'ils ont un shot. On avait l'impression qu'ils avaient abandonné quasiment cette série. Là, en revenant à 3-2 avec donc ce match à Indiana, s'il y a un Game 7, ce sera donc du côté de Milwaukee. Est-ce que c'est le moment pour eux de prendre des risques et tenter de, à minima, sauver cette série ?
Ça, c'est compliqué. Je ne sais pas du tout si Giannis est proche d'un retour ou pas. Après, tu peux... Tu sais, il y a plusieurs étapes. Quand tu reviens, tu fais d'abord des entraînements tout seul, après contact, 3 contre 3, 5 contre 5. Est-ce que, voilà, s'il en est à ce niveau-là, 3 contre 3, 5 contre 5, est-ce que tu grilles pas l'étape en disant, bah, ils vont être obligés de s'adapter à la présence de Giannis ? Ça change quand même complètement les cartes de la série.
Il y a ça aussi, oui. Le fait qu'il y ait Giannis.
Est-ce que tu tentes pas, quitte à le faire jouer 20 minutes hein. Je dis c'est pas ouais, de forcer le dessus comme un taré, mais connaissant l'engin aussi, lui, il n'a pas de limite. C'est-à-dire que même s'il joue que 20 minutes, il va être à fond. Et le risque aussi potentiel de se reblesser. Donc, compliqué. Là, honnêtement, il faut vraiment être dans le staff médical pour savoir. Mais effectivement, s'il est proche d'un retour, là, je pense que bah, oui, tu le mets parce que là, ils sont vraiment dos au mur. Moi, j'aime beaucoup le... Michael Jordan qu'on a retrouvé Chris Middleton sur les derniers matchs est complètement énorme. Le match qui va en prolongation, il plante de ses shoots. Enfin, c'est un mec qui a un autre visage en playoff, hein, vraiment.
C'est fou.
C'est complètement fou. Hein. Et il les porte à bout de bras, alors que c'est un mec qu'on disait un petit peu, peut-être pas cramé, mais qui avait vraiment du mal à retrouver du rythme. Bon, bah là, il vient de prouver en 3 ou 4 matchs hein, que voilà, c'est encore
un lieutenant. Il revient de blessure et tout.
C'est un lieutenant et c'est un tueur en play-off. Il n'en a pas qu'un comme ça, fait d'armes en play-off. Donc vraiment, même sans Giannis, il y a quand même une petite chance pour que les Bucks aillent le chercher, ce match. Parce que le match, c'est lequel ? Le match 4 qui perdent à Indiana. Donc ils sont sans Giannis et sans Lillard. Et ils ne sont pas ridicules, loin de là. Loin de là. Portis se fait exclure rapidement, ce qui est vraiment dommage, parce que ça leur pourrit un peu leur rotation. Ils sont obligés de réactiver Gallinari. Enfin, c'est vraiment compliqué, les rotations des Bucks sans leurs deux stars. Mais ils ne sont pas ridicules. Brooks Lopez, c'est aussi un vétéran qui connaît le chemin. Middleton, tu as Portis. Tu as quand même des grognards dans cette équipe. Face à une équipe un poil plus inexpérimentée, quand même, les Pacers. Voilà, franchement, c'est pas encore tout cuit pour les Pacers.
Non, je suis d'accord. Effectivement, va pas falloir se louper sur ce match 6. Et puis surtout, va pas falloir perdre son identité. J'ai le sentiment que Indiana doit jouer ce match comme
ils l'ont joué. Comme dit Flo, faut pas réfléchir.
Exactement.
Ouais. Pas se poser de questions. Eux ont vraiment aussi de la profondeur. Je crois que tu as 6 mecs à plus de 10 points. Le temps de jeu est beaucoup plus réparti. On n'a peut-être pas parlé de Miles Turner, mais c'est l'une des clés de la série pour moi. S'il a de la réussite à 3 points, les Bucks vont avoir énormément de mal parce que Brook Lopez est obligé d'aller un peu plus au large en défense. Enfin, ça les désorganise complètement. Sur les 3 victoires des Pacers, il est à 3 sur 6 à 3 points, 4 sur 10 à 3 points, 7 sur 9 à 3 points. Miles Turner est énorme dans cette série hein, sur les victoires des Pacers. Donc pour moi, c'est limite la clé de la série, c'est arriver à mettre un petit peu Miles Turner hors de danger, et après bah, tu composes avec l'adresse des Siakam et des Haliburton qui sont pas un peu son courant alternatif quand même.
Surtout Haliburton, je suis d'accord.
Surtout Haliburton, ouais.
Ok, on finit donc avec la dernière série à l'Est, celle qui oppose donc le premier au huitième, Boston-Miami. Boston qui mène désormais 3-1. On a globalement la série qui était peut-être la plus déséquilibrée sur le papier, même si Miami avait surpris un peu avec cette victoire lors du Game 2. Bon, on a le sentiment que Boston a remis les pendules à l'heure avec ses deux victoires à l'extérieur. Ils ont quasiment fini la série à Miami. avec derrière sur ce match 4, si je ne dis pas de bêtises, une énorme perf de Derrick White à Miami d'ailleurs. Miami connu pour son White Hot. Bah, il était bien Hot White, mais ce n'était pas le bon. Attention quand même à l'absence de Porzingis qui va louper quelques matchs. Donc on verra sur le bilan final combien de temps il est absent, mais ça peut être une interrogation côté Celtics. Des Celtics que personnellement j'ai pas trouvé si dominant que ça, pas forcément dans la lignée de leur saison régulière. Même si Miami c'est toujours une match-up un peu compliquée pour eux, j'ai pas été ultra impressionné. Je sais pas ce que vous en pensez. Tiens Flo, toi, est-ce que cette équipe de Boston elle t'a rassuré?
Oui, elle maîtrise le sujet. Rassuré. Alors c'est sûr que c'était un premier tour contre Miami. Moi, après, j'ai jamais gobé à la théorie Miami, ce qu'ils ont fait l'année dernière, ils allaient refaire cette saison. Ce qu'ils ont fait l'année dernière était superbe, mais ça restait quand même une anomalie, sans manquer de respect.
Tu profites que Simon soit pas là. Vas-y, lâche-toi.
Oui, si tu veux. Non, mais voilà, c'était. Je pense qu'il sera le premier à la reconnaître. C'était une anomalie et voilà, cette année en plus Butler n'est pas là, donc est-ce qu'ils m'ont rassuré? Non, pas dans ce premier tour, mais c'est pas non plus l'inverse.
Oui,
c'est-à-dire que c'est difficile d'être rassuré ou d'être inquiet tant de voir en fait cette demi-finale contre, bah, du coup ce sera Orlando ou les Cavaliers. Ouais. Là, j'attends de voir un peu plus ce que ça va donner. Mais pour l'instant, ils ont déroulé leur jeu. Il y a en effet la grosse interrogation sur Porzingis. Combien de temps il va être out? Combien de matchs il va rester? C'est surtout ça. Mais je ne suis pas inquiet pour l'instant. Ils ont montré de bonnes choses. Alors oui...
Vous faites le minimum syndical, quoi. Mais ouais, en même temps, ils n'avaient pas besoin de faire beaucoup plus.
Non, bon, ils se sont fait avoir sur un match. Bon, ils ont compris. Ils ont compris voilà, qu'il fallait pas baisser les bras parce que. Enfin, baisser les bras. Il fallait être vigilant parce qu'à tout moment, voilà, en play-off, surtout contre Miami, si tu fais pas attention, bah, tu te fais taper un match. C'est ce qui s'est passé. Je serais pas surpris que ça finisse en 4-1 et ils auront réussi le boulot, ils se seront pas embarqués. C'est ça qui est rassurant, c'est qu'ils auraient pu se prendre les pieds dans le tapis comme souvent ils le font. Et comme il l'avait fait la saison dernière, cette année c'est pas le cas, donc sur ce point un peu rassuré. Mais j'attends surtout la série d'après, la demi-finale de conf, pour en savoir un peu plus, et puis avoir un bilan médical de Porzingis.
Sylvain, tiens, pour finir un peu sur ces Celtics et cet épisode de manière générale, on a parlé de l'absence de Porzingis. Si c'est acté que Porzingis loupe l'entièreté du second tour, est-ce que pour toi Boston reste quand même immense favori, que ce soit Cleveland ou Orlando en face?
Oui. Parce que derrière, tu as quand même l'assurance à l'Horford. Oui. Il est pas tout jeune, mais à l'intérieur, il va te faire le taf. Il va peut-être scorer moins que Porzingis, un peu moins de shooting externe. Encore que, mais voilà, c'est un mec qui a un tel métier que sur une série, il peut largement, tu peux lui doubler même ses minutes. Hein, voilà, il peut apporter pour que Boston reste favori. À mon avis, moi, c'est ça. Hein. Là, Boston s'est vraiment facilité la série contre le Heat en haussant le niveau défensif. Sur le match 4, il n'encaisse que 12 points. Non, pardon, le match 3, ils encaissent 12 points le premier quart-temps et le match 4, ils encaissent 12 points dans le deuxième quart-temps. C'est-à-dire qu'ils ont fait des tels efforts défensifs d'entrée en prenant à la gorge le Heat qu'ils se sont facilités les deux matchs en Floride. Si c'est le cas sur le cinquième, voilà, le Heat, malheureusement, aura très, très peu de chances de survie.
Ok. Eh ben, je crois qu'on va s'arrêter là. On a fait à peu près le tour de toutes les séries. Un épisode encore très dense, mais encore très, très intéressant. Il y a énormément de choses à dire, de toute façon, durant ces playoffs. Merci les gars d'être venus. Merci d'avoir pris le temps de parler de ce premier tour. On se retrouvera probablement la semaine prochaine avec un peu, j'imagine, dans le suivi de ces épisodes un peu free flow ou sans grosse actualité. On va sûrement revenir sur les séries en cours. Donc, regardez du basket, profitez de cette fin de premier tour. Espérons qu'on ait un grand dimanche avec plusieurs Game 7, probablement à heure française. Donc ça, on verra bien. Mais globalement, regardez ces beaux matchs, prenez du plaisir et à très bientôt.
Salut.
Ciao, ciao.